Épilogue. 1. Première représentation des habits noirs. Drame en 5 actes et 12 tableaux, à grand spectacle. Avec prologue, épilogue, 7 décors nouveaux, changements et danse de caractère. Introduction. Tel était à peu près le corps de l'affiche énorme qui portait en outre, dans un carré blanc ménagé parmi la couleur générale de deuil, répondant au titre, Mademoiselle Thelma Rossignol débutera dans le rôle de la comtesse Fra Diavolo. Chacun savait dans Paris que le théâtre de Merci mon Dieu jouait son va-tout sur cet important ouvrage. L'habile et intelligent directeur qui côtoyait imperturbablement la faillite depuis un temps immémorial avait fait des frais exceptionnels. Outre l'engagement de Mademoiselle Thelma Rossignol, on avait 6 clowns entièrement inédits. 3 sauvages des bords du Rio Colorado, qui se nourrissaient de la chair de leurs ennemis vaincus. Une dame assez adroite pour avaler des sabres. Et un soprano réformé qui devait dire la chanson de la boue. Au troisième acte, les banquises des mers polaires, grand panorama mouvant, animé par des ours blancs naturels. Au quatrième, le ballet des tueurs de tigres, avec lumière voltaïque et enlèvement d'un ballon. Au septième tableau, embrasement général de la forêt. Les critiques sérieux pariaient pour un monstrueux succès tout le long du boulevard, en déplorant néanmoins les voies funestes où l'art s'égare depuis le décès prématuré de Voltaire. 2. Avant le lever du rideau. À l'orchestre, une société choisie faisait salon bruyamment. « Je ne sais pas, dit Cabiron, le lanceur d'affaires, comment ils ont placé les Indiens anthropophages dans une pièce éminemment parisienne. « Il y a de tout à Paris, répliqua à la voix. Quand on pense que nous avons déjeuné 20 fois chez ce colonel, Fra Diavolo, une bourde audacieuse. Ma parole d'honneur sacrée, s'écria Contentin de la lourde ville. J'ai vu le fameux spacapulaire entre les mains de ce cher monsieur Ménote. Le nom y était en toutes lettres, Fra Diavolo. Et les dates des batailles, ça et ça. Il avait eu le pape prisonnier dans la Penin, ce coquin-là. Son vrai nom était Michel Pozza ou Bozza. Il avait déjà été pendu à Naples, comme chef de la Camorra en 1806. Je ne me repens pas d'avoir prononcé quelques paroles bien senties sur sa tombe, parce que, en définitive, c'était un personnage historique. Fra Diavolo, rue Thérèse, murmura Madame Touban, coiffée de plumage. Comme c'est croyable! Sensitif fredonna. Voyez sur cette roche ce brave à l'œil fier et hardi. Son mousquet est auprès de lui. C'est son meilleur ami. Il n'avait pas l'air de ça, dit à la voix. La Marseillaise! Cria-t-on du paradis. Si la maison Schwartz était tombée, dit M. Tourangeau, adjoint, qui occupait avec sa société des places de pourtour, ça aurait été une mauvaise affaire pour tout ce pays-ci. Tombée ? S'écria Madame Blot. Pourquoi ? Parce que le baron a reçu un coup de pistolet en défendant sa caisse ? À ce qu'on dit, car l'ancien mari de sa femme avait bien des raisons pour lui chercher une querelle d'allemand. La maison, fit observer M. Champion, remarquable par sa bonne mine, semble prendre au contraire un plus conséquent effort depuis que M. Michel et M. Maurice y apportent, respectivement, dans une direction éclairée, le fruit de leurs études classiques. En voilà un qui a fait un beau rêve, risqua Céleste timidement. M. Michel. Oh, combien celle-ci était déchue depuis le nocturne et sentimental voyage de Versailles. Il faut bien le dire, elle avait trouvé Maître Léonide Denis plein de santé, et les yeux de M. Champion s'étaient enfin ouverts. Rendu prudent et adroit par l'habitude de la pêche, Monsieur Champion n'avait point fait d'éclat. Mais Céleste était traitée avec rigueur dans l'intérieur de son ménage. Elle pleurait bien souvent, se disant « Si encore j'étais coupable !» À droite et à gauche, premier étage, il y avait 2 loges entièrement grillées qui se faisaient face. Au second galerie, Monsieur Patu, ancien officier de la marine, accompagnait la reine Lampion, dont la toilette faisait mal aux yeux. Par suite du décès de l'entreprise des bateaux-postes, M. Patu était rentré dans la vie privée. Il administrait, en qualité de prince conjoint, l'estaminet de l'épicier. Après une petite secousse causée par une descente de police qui suivit la catastrophe de l'hôtel Schwartz, l'estaminet de l'épicier avait repris le courant de ses affaires, et ce bel établissement était aujourd'hui plus prospère que jamais. M. Patu et la reine échangeaient de nombreux sourires à la ronde. Le titre de la pièce intéressait leur clientèle, qui était amplement représentée à tous les étages de la salle. Au paradis, vous eussiez reconnu Échalot, seul et sans similor. Saladin n'était ni sur son dos, ni sous son bras. Quelque malheur. La tête d'Échalot pendait sur sa poitrine, et il avait des larmes plein les yeux. Il disait à ses voisins, des railleurs qui riaient de sa peine, imitant le chant du coq, gloussant, sifflant, mordant des pommes et humant avec délice les puanteurs asphyxiantes de cette atmosphère, il disait « L'enfant n'était pas né viable, gros comme un rat et avant les 9 mois, qu'il fut l'auteur innocent de la mort de sa mère. Il tenait dans ma casquette qui devint son premier berceau. J'ai fait pour lui l'apprentissage de nourrice, étant fils naturel d'un ami qui n'a pas de soins et qui l'aurait laissé sans boire. Et maintenant qu'à l'âge de sa 3e année, il débute déjà sur la scène française, car c'est le phénomène vivant de la malice, 6 000 ans en profite pour avoir ses entrées et les 15 sous d'appointement qu'on me refuse à la porte sévèrement comme un chien enragé. Et que je suis réduit à payer ma place pour jouir de ses débuts de loin sans pouvoir le presser sur mon cœur au moment du succès. Il fondait en eau et faisait la joie de ses voisins. 3 coups sont frappés derrière la toile qui frémit. Le chef d'orchestre lève son archet comme une épée exécutant la parade de prime. Un redoutable accord mineur éclate, musique imitative qui s'en révèle à la couleur du titre. « Ah bah les chapeaux !» crie le parterre. « Coupe ta tête, milord !» Et la claque applaudit pour se faire la main. Prologue, la vendetta, le brassard. Premier tableau, la montagne. Fra Diavolo et ses bandits sont campés dans les lieux déserts. 100 figurants, paysans, paysannes, soldats du pape prisonnier, bohémiens, etc. emplissent le décor dû au pinceau de quelqu'un. On a incendié le château. Rodolfo, le lieutenant de Fra Diavolo, amène la jeune Josefa, fille du seigneur, et jure qu'il l'immolera si elle ne cède pas à sa flamme. Cœur de bandit, musique du chef d'orchestre. Fra Diavolo entre avec fracas et conseille à ses subordonnés d'allier l'astuce à l'audace. Coup de fusil au loin. On amène un étranger qui doit la vie à la fille de Fra Diavolo. Fasse l'enfer, dit Rodolfo, que nous n'ayons pas à nous repentir de notre démence. La nuit vient. L'étranger qui est forgeron lime ses chaînes et s'enfuit avec Josefa, la fille du seigneur. Elle est sa fiancée. Réveil des bandits, préparatif de la poursuite, Rodolfo l'avait prévu. « Si vous voulez réussir dans vos desseins, dit Fra Diavolo, troublé au milieu de son premier sommeil, unissez aux mes enfants la hardiesse à la prudence. » Deuxième tableau, l'intérieur de la maison du jeune forgeron à Poitiers. Changement demandé par la censure. Paolo, André, et Josefa, l'ancienne fille du seigneur, travaillent l'un à repriser un brassard, l'autre à raccommoder des langes de son enfant, car leur union a été féconde. Le fruit est dans son berceau. Nous savons si Saladin est capable de remplir comme il faut ce rôle de l'enfant de carton. Paolo sort pour se rendre chez le plus riche banquier de la ville. Rodolfo entre, déguisé en pèlerin. L'Angélus sonne. Josefa va chercher la croix de sa mère pour la passer au cou de son enfant. Rodolfo emporte le brassard en disant « Oh, ma vengeance !» Rentrée de Paolo joyeux. Projet d'avenir. On compte l'argent de la tirelire. Arrivée des gendarmes. La caisse du plus riche banquier de la ville a été forcée et le brassard porte témoignage contre Paolo qui est arrêté. « Il me reste au moins mon enfant !» s'écrie Josefa qui s'évanouit non loin du berceau. Et Rodolfo entre à pas de loup en murmurant « Oh, ma vengeance !» Il fourre Saladin dans sa poche avec la croix de la mère de sa mère et s'exhale pendant que l'orchestre exécute un sombre bourdonnement analogue à cette circonstance fâcheuse. Nota. On aperçoit dans la coulisse la tête orgueilleuse de Similor qui s'avance trop pour suivre des yeux le paquet où est Saladin. Du haut du paradis, Échalot verse des larmes de triomphe sur la parterre en criant « Saladin, mon fils! Si sa malheureuse mère le voyait !» On vocifère « À la porte !» Quelques oranges circulent et des voix autorisées proposent déjà « Orge, limonade, bière !» Dans la coulisse, Étienne, pâle comme un mort, l'œil hagard, les cheveux hérissés, se promène entre les portants. Personne ne lui parle. Savinien Larsin et son collaborateur, M. Alfred d'Arthur, sont au contraire entourés et choyés par les gens du théâtre. L'habile directeur lui-même daigne leur sourire. Troisième tableau, la prison. Cellule de l'habit noir. Paolo au sol, Rodolfo s'est fait geôlier pour savourer sa vengeance. Monologue où Paolo se raconte à lui-même la fuite de Josepha. La fille de Fra Diavolo, Mademoiselle Thelma Rossignol lui apporte une scie et des consolations. Il coupe ses barreaux et s'élance dans le vide en criant « Cieux, protégez l'innocence !» À ce moment, Rodolfo entre pour lui annoncer qu'il est condamné à mort. Ne le trouvant plus, il jure de se venger. Quatrième tableau. Le parvis de Saint-Germain l'Auxerrois. Changement demandé pour dérouter l'opinion publique et prévenir les allusions. Mariage de Josepha, sous le nom d'Olympe, avec le jeune usurier Verdier qui lui a fourni un faux acte de décès de son premier mari. Fra Diavolo est devenu marguillier de cette paroisse sous le nom du colonel Toboso. Rodolfo s'appelle maintenant Médoc et intrigue afin de se venger. Les cloches sonnent pour le mariage. Procession de jeunes vierges portant des fleurs. Paolo arrive très fatigué d'un long voyage. Il se raconte de rechef à lui-même comment, ne pouvant plus résister à son impatience, il a bravé tous les dangers. Il s'introduit dans l'église. On entend un cri. Paolo revient tombé sur les degrés en disant « C'est elle !» Rodolfo accourt, l'examine et dit « C'est lui !» Il l'emballe dans un fiacre. « Oh, ma vengeance !» La noce sort de l'église et les jeunes filles effeuillent leurs fleurs en souriant. Cinquième tableau. La maison du marguillier rue Thérèse. Fra Diavolo, fatigué de courir d'affreux dangers, s'est transformé en citoyen paisible. Il feint d'accomplir de bonnes œuvres tout en continuant de commettre une multitude de crimes. C'est chez lui que le fiacre a déposé Paolo évanoui. Rodolfo veut l'immoler tout de suite, expliquant que la vendetta est une habitude corse. Fra Diavolo objecte qu'il est bon d'unir la fermeté à la circonspection. Pendant cela arrive Fanchette. Mademoiselle Thelma Rossignol, qui peut jouer les âges depuis 10 ans jusqu'à 70 ans, tel est son engagement. Fanchette se moque de Rodolfo, caresse le marguillier et rend la vie à Paolo par un moyen nouveau. Le marguillier sait tout. Il engage Paolo à la prudence, puisque le mariage est accompli, et lui donne les moyens de passer en Angleterre où il le fera pendre. Comment? Par son influence. Où l'apprend-il son influence? Quoique marguillier, il est le chef des habits noirs. Au moment où Paolo part, Fanchette entre en berçant le petit enfant dans ses bras. On voit bien qu'il n'est pas de carton, car elle crie et tend ses petits bras vers la porte où est sorti son père. Tableau touchant. On distingue à son cou le cordon de la croix de sa mère. 3. Entracte. C'est très mignon, dit à la voix qui ruisselait de sueur. C'est absurde, répliqua Sensitif, sec comme allumette. Un critique sérieux se tourna vers lui, le salua et ajouta « Monsieur, les tragédies de Corneille étaient écrites avec beaucoup plus de soin. »« Est-ce que l'histoire du faux Louis XVII serait là-dedans ?» demanda Madame Touban. « La censure, » fit Sensitive en haussant les épaules. Au paradis, Échalot se trouvait mal et devenait l'objet des attentions de ses voisins. On lui fourrait des pommes dans la bouche, on lui offrait du tabac sous diverses formes, on l'inondait de bière, on le comblait de quartiers d'orange. « Comme il a bien crié !» murmura-t-il quand ses soins intelligents lui ont rendu le calme. Ça sera à la ferrière avec le temps, ce polisson-là. L'instant d'après, Similor, transformé par la prospérité et ressemblant presque, tant il s'était profondément nettoyé, à un marchand de lorgnettes, parut à l'entrée de l'amphithéâtre avec l'enfant dont le rôle était achevé. L'enfant passa de main en main jusqu'à Échalot qui tendait vers lui ses bras tremblants. Saladin n'avait pas grandi, il était mièvre et pointu. Sa tête étroite se couronnait de cheveux rudes d'un jaune grisâtre. Ses yeux effrontés tenaient toute sa figure. Il y a des singes comme cela, ou bien figurez-vous le diable, quand il était tout petit. « Toi, tu es mon joli !» s'écria Échalot en l'étouffant de baisers. « Ne va pas me l'user !» gronda Similor. « Il vaudra cher !» Échalot l'éleva au-dessus de sa tête. « C'est artiste !» dit-il. « Ça va avoir son nom imprimé !» Il ajouta avec noblesse en s'adressant à Similor. « Je ne t'en dispute pas le bénéfice pécuniaire à m'aider, mais c'est à moi la moitié de son cœur. » La société du pourtour écoutait Monsieur Champion qui pérorait ainsi. Moi seul peux vous dire la vérité tout entière sur ces sujets délicats. On m'avait intéressé par le danger de Ménigne, dont la collection est la première de la capitale. Je me croyais sûr de l'intérieur de ma famille, ajouta-t-il en jetant à Céleste un regard cruel. L'histoire des causes célèbres présente peu d'exemples de vols combinés avec une pareille science. On mit les scellés sur toutes les issues de mon domicile, et je fus obligé de cocher à l'auberge. La caisse ne fut ouverte que le lendemain au jour, en présence de notre sieur Michel, dont on ne connaissait pas encore l'état civil, mais qui avait procuration de Madame la Baronne, laquelle, par testament en due forme, était légataire universelle de feu Monsieur le Baron, sauf les droits et réserves de Mademoiselle Blanche, présentement épouse de notre sieur Maurice Schwartz. Il y eut des difficultés matérielles pour ouvrir, des lambeaux d'étoffe, des muscles broyés, restés forcés entre le battant et le seuil du coffre-fort. Car vous n'ignorez pas que Monsieur Lecoq, chef présumé de l'association des habits noirs, avait été virtuellement guillotiné par la fermeture de la caisse. Les hommes de l'art trouvèrent le fait très curieux, mais explicable. La caisse, construite pour un autre usage, avait agi, dans ce cas particulier, comme une paire de cisailles. C'est le propre mot des hommes de l'art. Et si vous voulez venir visiter ça un matin, vous verrez quelle qualité d'acier. Les angles tranchent comme des rasoirs. Nous nous amusons à couper, par le même procédé, divers objets de peu de valeur. J'en ai fait collection en vue des personnes qui désirent se rendre compte. La chose véritablement étonnante, c'est qu'il fut trouvé sous le cadavre du dit Monsieur Lecoq 4 liasses de faux billets de banque imités aux pointes d'asperge. Je les ai tenus dans ma main. C'était à se demander si on avait la berlue. On en saisit là pour 4 millions. 4 millions ? Répéta le pourtour. Adolphe continua. Vous souvenez-vous de la soirée du dimanche, 3 jours avant l'événement, dans la voiture de livrée où nous étions, diverses soustractions furent commises. Ma boîte d'argent, s'écria Madame Blot. Celle de Madame Champion, qui était fort belle, ayant coûté 80 francs en fabrique, et mon propre portefeuille. Je soupçonnais dès lors. C'est bien rare, l'interrompit Monsieur Tourangeau, qu'on signale des voleurs dans ce pays-ci. Vous avez joliment bavardé, ajouta la veuve de l'huissier. Vous avez défié les habits noirs. Désormais, bien fin qui connaîtra la couleur de mes paroles. Le poisson est muet, cela fait sa force. C'était pour arriver à vous conter un détail en preuve de l'adresse diabolique de ces coquins. Vous savez, Médor, le chien qui avait ma confiance. Ça m'étonnait qu'il n'eût pas aboyé. Quand j'allais le lendemain de l'événement pour lui porter sa nourriture, je vis qu'on me l'avait changé contre un animal de la même espèce, mais privé de vie et empaillé. 4. Le drame. La caverne des bandits. La chanson de la boue. Puit ! C'est ainsi que les voleurs s'appellent entre eux dans les mélodrames afin que nul n'en ignore. Ils ont peur de n'être pas découverts. Sous l'aqueduc d'Arcueil, construction romaine, il est un profond souterrain. C'est là qu'Édouard, fils de Josepha, a grandi parmi les mauvais exemples. Puit ! Puit ! On le place chez le baron Verdier dans un dessin coupable. Ses amours avec la comtesse Fradiavolo, rôle de genre, confié à mademoiselle Talma Rossignol. Il est chassé de la maison parce que le baron ressent les tourments de la jalousie. Les boutons de diamant. Grande scène à ce propos entre Olam Verdier, l'ancienne femme de Paolo, et la jeune ingénue Sophie. Cela fait 3 tableaux très intéressants. Au 4e, nous sommes sous les ponts, décor dû au pinceau. La comtesse Fradiavolo chante la chanson de la boue avec un succès flatteur. Pas de sergent de ville. 3 pas de veille et dissimule, mais dans une attention louable. Il désire se procurer le scapulaire de la Merci. Monsieur Médoc, qui n'est autre que Rodolfo, a la même ambition. Il entasse dans ce but intrigue sous supercherie et entraîne le baron Verdier dans le piège. Tableau d'intérieur. Édouard et Sophie, amour pur, vie respectable de la vieille mère qui veut donner les acomptes. 6e changement à vue. L'estaminet de l'épicier. Danse de caractère. 18 billards. 6 clowns. 3 cannibales. Dame instruite à avaler des sabres. Fradiavolo, faux marguillier, est assassiné par ses propres amis noirs. Olam Verdier retrouve au cou d'Édouard la croix de sa mère. 3 pattes surprend le secret des bandits de la montagne. Puit ! L'harmonie du ruisseau, polka de la poudrette. 5. La salle. Le mérite d'une œuvre d'art est dans la simplicité, professa le critique sérieux. L'école de Beaumarchais fut déjà une décadence. Mais il était doué de beaucoup d'esprit naturel. Est-ce que nous allons voir la caisse guillotiner ce pauvre Médoc ? Demanda Madame Touban à Sensitive. Ce serait roide ! La censure, répondit le poète. Ils ont glané ça et ça, fit observer Contentin. Mais c'est châtré, cette machine. Mais enfin, dit Céleste, le trésor du colonel. Depuis la mort du baron Schwartz, Monsieur Champion, dans les grandes circonstances, imitait son laconisme. Des hommes de police, là-bas en Corse, répondit-il. Ruines du couvent fouillé, pas de résultat, couvent miné, sauté, néant. Les habits noirs existent donc encore ? Demanda l'huissière. Adolphe haussa les épaules. On en a coffré 1/2 douzaine, tout au plus. Cocotte, picpus, le frottin. J'ai vu ces choses-là de près, puisque l'instruction se fit dans ma propre chambre. Comptez-nous donc l'instruction. Eh bien, il y avait 2 témoins, car c'est Monsieur Bruno qu'on nomme ouvertement Monsieur André Ménotte, depuis qu'il y a ordonnance du roi pour sa sauvegarde. Le premier mari, dit Madame Blou. Le père de notre sieur Michel, oui. Ce Monsieur Ménotte, disais-je, avait pris le poste, et Madame la baronne l'avait suivi. Je trouvais ça inconvenant, mais la suite a démontré que c'était la nature. Les deux témoins étaient le conseiller Roland et le chef de division Schwartz. Pas de la petite bière. Ils déclarèrent tout d'abord avoir envoyé leur démission à leurs ministres respectifs, ayant désormais à remplir un devoir sacré, incompatible avec leurs fonctions publiques. Ils établirent que M. Schwartz avait été assassiné par M. Lecoq. Mais Doc, ah, le coquin de Rodolphe! Et que M. Bruno, sans malice aucune, avait refermé la porte de la caisse sur ce sanguinaire scélérat qui était en train de décharger dans sa poitrine à lui, M. Bruno, le second coup de son pistolet. Mais comment tout ce monde était-il là? 6. Les coulisses. Le dernier tableau s'achevait. Olympe Verdier, entouré de cadavres, remerciait son Dieu. Étienne et Maurice tombèrent dans les bras l'un de l'autre derrière la toile de fond. « Tu t'es donc marié? Tu as donc fait recevoir enfin ta pièce ?»« Oui, » répondit Étienne d'un air sombre, « ma pièce. »« Pourquoi ne viens-tu pas nous voir ?» reprit Maurice. « Que de choses dans ces 2 années ?»« Oui, » gronda Étienne, « que de choses. » Olympe Verdier, ma chère et charmante mère, est redevenue Julie Ménotte. Monsieur Bruno a vu la fin de ses traverses. Je ferai une autre pièce avec ça. « Ah non, celle-ci suffit pour ta fortune et pour ta gloire. » « Pour ma fortune, dit Étienne. Sur 10% de droit, j'ai donné 4% à M. Alfred d'Arthur et 4% à M. Savinien Larsin. »« Ah, diable! Reste 2%, c'est maigre. » « Le directeur s'en est contenté, fit Étienne avec un soupir. « Alors il ne te reste que la gloire. »« L'auteur! L'auteur !» cria la salle en ce moment. Étienne s'arracha une forte poignée de cheveux. « Messieurs, annonça le grand comédien chargé du rôle de trois pattes, le drame que nous avons eu l'honneur de représenter devant vous est de messieurs Alfred d'Arthur et Savinien Larsin. Eh bien, et toi ? Demanda Maurice. 7. Sortie du théâtre. Ça ne fera pas le sou, pronostiqua Sensitive. En voilà pour 200 représentations, dit Tourangeau. J'y enverrai tous les gens bien de ce pays-ci. Mais on ne révèle pas le fameux secret renfermé dans le scapulaire ? Fit observer Madame Touban. « Racine eût fait autrement que cela, » déclara le critique. « Pour vous finir, » dit Adolphe Champion à Madame Blot, « l'ancien conseiller et l'ancien commissaire de police travaillent comme des nègres à la révision du procès de Caen. Aimée, Madame Michel, a voulu que tous les créanciers de M. Bancel fussent payés intégralement, et la pauvre vieille Madame Bancel est morte bien heureuse. Madame Maurice a une jolie petite fille. Madame Michel a un beau petit garçon. La maison va comme un charme. Madame Ménotte est belle à faire trembler. » Et moi, je pêche 2 fois par semaine. Mais, demanda la veuve de l'huissier, cette affaire du faux Louis XVII. Mon cher marquis, disait le puissant ami de Gaillard-Bois en sortant avec lui d'une loge grillée, ce Lecoq était un mâle. Le roi est de plus en plus amoureux de son cruel faubourg. Retrouvez-nous donc ce petit truc qui a le nez de Saint-Louis. La voiture de Monsieur Ménotte, cria un grand laquais. Tiens, dit Gaillard-Bois, ils étaient dans l'autre loge grillée en face. Avant de monter dans son équipage, le puissant ami du marquis décacheta un pli qu'un homme décent venait de lui remettre. « C'est un épilogue, murmura-t-il. Le comte Corona vient d'être poignardé dans la campagne de Sartène par le nommé Baptista, cocher de sa femme. Une jolie personne. » Et il ajouta en s'adressant à ses gens, « À la préfecture !» 8. Le café du théâtre. Des grogues en quantité, quelques bavaroises, unanimité de cigares. La petite Thelma n'aura pas la vie pure. La Ferrière n'a plus que 12 ans. Étienne ? S'écria Savinien Larsan en répondant à une question indiscrète. Quel Étienne ? Connais pas cet oiseau-là ? Si la censure avait voulu laisser un peu de liberté, professait Alfred d'Arthur au milieu des complimenteurs, la maison Schwartz aurait bien acheté le manuscrit 200 000 ou 300 000 francs. Attendons le réveil du peuple. Envoyez-moi la brochure, dit le critique sérieux à Savinien. J'ai noté ça et là quelques tournures de phrases qu'on ne trouve pas dans la harpe. À propos, comment vous excusez auprès du public d'avoir escamoté le fameux secret des habits noirs ? En annonçant notre prochain drame, le secret de la Camorra, ou Fra Diavolo au couvent de la Merci.